Je suis Fortès pour Madame de Poitiers, répondit Clémence. Elle peut vous avoir reconnaissance, reprit Charles de Valois, car c'est bien à vous qu'elle doit son état d'à présent. Si vous n'aviez point demandé son pardon le jour de vos épousailles, je doute fort que Louis l'eût si vite accordé.
Dieu me prouve donc que j'ai bien fait, puisqu'il vient de bénir cette union.
Il semble que Dieu bénisse moins rapidement la vôtre. Quand donc vous déciderez-vous, ma nièce, à suivre l'exemple de votre belle-sœur? Il est dommage, en vérité, qu'elle vous ait devancé. Allons, Clémence, laissez-moi vous parler comme un père. Vous savez que je n'aime pas mâcher les mots que j'ai à dire. Louis, remplit-il bien ses devoirs auprès de vous?
Louis m'est aussi attentif qu'un époux peut l'être.
Voyons, ma nièce, entendez-moi bien. J'entends ses devoirs d'époux chrétien, ses devoirs de corps, si vous préférez.
Le rouge monta au front de Clémence. Elle balbutia. Je ne vois pas que Louis ait en rien à être repris sur ce point. Je ne suis guère mariée que depuis 5 mois et je ne pense pas qu'il y ait lieu de vous alarmer déjà.
Mais enfin, honore-t-il bien régulièrement votre couche?
Presque chaque nuit, mon oncle, si c'est cela que vous tenez à apprendre. Et plus que d'être sa servante, lorsqu'il le veut, je ne puis.
Eh bien, souhaitons, souhaitons, dit Charles de Valois. Mais comprenez, ma nièce, que c'est moi qui ai fait votre mariage. Je ne voudrais pas qu'on me reprochât un mauvais choix.
Alors Clémence, pour la première fois, eut un mouvement de colère. Elle repoussa sa broderie, se leva de son siège, et d'une voix où l'on pouvait reconnaître le ton de la vieille reine Marie, elle répondit
« Vous semblez oublier, messire mon oncle, que ma grand-mère a donné le jour à 13 enfants, et que ma mère Clémence de Habsbourg en avait déjà 3 lorsqu'elle mourut à peu près à l'âge que j'ai. Ma tante Marguerite, votre première épouse, ne vous a pas donné motif de vous plaindre, que je sache. Les femmes de notre famille sont fécondes et le prouvent en main royaume. Si donc il y a empêchement aux vœux que vous formez, il ne saurait venir de mon sang. »
Et sur ce point, messire, nous avons assez parlé pour ce jour et pour toujours. » Elle alla s'enfermer dans sa chambre, refusant qu'aucune dame de parage la suivît. Et ce fut là que Dline, la première lingère, entrant pour préparer le lit, la trouva 2 heures plus tard assise auprès d'une fenêtre derrière laquelle la nuit était tombée.
« Comment, madame ? » s'écria-t-elle. « On vous a laissé sans lumière ? Je vais appeler ? »
« Non. » « Non, je ne veux personne, » dit faiblement Clémence. La lingère aviva le feu qui se mourait, plongea dans les braises une branche résineuse et s'en servit pour allumer un cierge planté sur un pied de fer.
« Oh, madame, vous pleurez ? » dit-elle. « Vous a-t-on fait peine ? »
La reine s'essuya les yeux. « Un mauvais sentiment me tourmente l'âme, » dit-elle brusquement.
« Je suis jalouse ? »
Eudeline la regarda avec surprise.
« Vous, madame, jalouse? Mais quelle raison auriez-vous de l'être? Je suis bien certaine que notre sire Louis ne vous a pas fait de tromperie, ni n'en a même l'idée. »
« Je suis jalouse de madame de Poitiers, » reprit Clémence. « Je suis envieuse d'elle qui va avoir un enfant alors que moi, je n'en attends point. Oh, j'en suis bien aise pour elle, mais je ne savais pas que le bonheur d'autrui pouvait blesser si fort. »
« Ah, certes, madame, cela peut causer grande douleur, le bonheur des autres. »
Eudeline avait dit cela d'une curieuse manière, non pas comme une servante qui approuve les paroles de sa maîtresse, mais comme une femme qui a souffert le même mal et le comprend. Le ton n'échappa point à Clémence.
« N'as-tu pas d'enfant, toi non plus ? » demanda-t-elle.
« Si fait, madame, si fait. J'ai une fille qui porte mon nom et qui vient d'atteindre ses 10 ans. » Elle se détourna et commença de s'affairer autour du lit, rabattant les couvertures de brocart et de menus verts.
« Tu es depuis longtemps lingère en ce château ?» poursuivit Clémence.
« Depuis le printemps, juste avant votre venue. Jusque-là, j'étais au palais de la cité où je tenais le linge de notre sire Louis, après avoir tenu celui de son père, le roi Philippe, pendant 10 ans. » Un silence se fit, où l'on n'entendit plus que la main de la lingère battant les oreillers.
« Elle connaît à coup sûr tous les secrets de cette maison. » « Et de ses lits, » se disait la reine.
Mais non, je ne lui demanderai rien, je ne l'interrogerai pas. Il est mal de faire parler les servantes. Ce n'est pas digne de moi. Mais qui donc pouvait la renseigner sinon justement une servante, sinon l'un de ces êtres qui partagent l'intimité des rois sans en partager le pouvoir? Jamais, au prince de la famille, elle n'aurait l'audace de poser la question qui lui brûle à l'esprit depuis sa conversation avec Charles de Valois. D'ailleurs,
Lui donnerait-il une réponse honnête? Des hautes dames de la cour, aucune n'avait vraiment sa confiance, parce qu'aucune vraiment n'était son amie. Clémence se sentait l'étrangère que l'on flatte de vaines louanges, mais que l'on observe, que l'on guette, et dont la moindre faute, la moindre faiblesse ne sera pas pardonnée. Aussi ne pouvait-elle se permettre d'abandon qu'auprès des servantes. Eudeline, particulièrement, lui semblait rassurante. Le regard droit, le maintien simple, les gestes appliqués et tranquilles, la première lingère se montrait de jour en jour plus attentive, et ses prévenances étaient sans ostentation. Clémence se décida. « Est-il vrai, demanda-t-elle, que la petite Madame de Navarre, que l'on tient loin de la cour et que je n'ai vue qu'une fois, ne soit pas de mon époux ?» Et en même temps, elle se disait « N'aurais-je pas dû être averti plus tôt de ces secrets de couronne ? Ma grand-mère aurait dû s'informer davantage. En vérité, on m'a laissé venir à ce mariage en ignorant bien des choses. »«
Bah, madame !» répondit Eudeline en continuant de dresser les coussins, et comme si la question ne la surprenait pas outre mesure. « Je crois que nul ne le sait, pas même notre sire Louis. Chacun dit sur cela ce qui l'arrange. Ceux qui affirment que Madame de Navarre est la fille du roi ont intérêt à le faire, et pareillement ceux qui tiennent pour la bâtardise. On en voit même comme Monseigneur de Valois qui change d'avis selon les mois sur une chose où pourtant il n'y a qu'une vérité. La seule personne dont on aurait pu tenir une certitude, qui était Madame de Bourgogne, a maintenant la bouche pleine de terre. »
Eudeline s'interrompit et regarda vers la reine.